Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, ce soir, dans le débat du jour, nous parlons des langues régionales.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et c'est un sujet bien plus explosif qu'il n'y paraît, peut-être, à première vue. On témoigne ce qui s'est passé la semaine dernière à Bruxelles. Les ministres des Affaires européennes étaient réunis pour étudier une demande de l'Espagne, puisque Madrid, en effet, souhaite que trois langues régionales, le catalan, le basque et le galicien, soient reconnues comme des langues officielles de l'Union européenne. Eh bien, résultat, l'unanimité n'a pas été atteinte et la décision a été reportée. Ce soir, notre question, faut-il favoriser les langues régionales? À quoi servent les langues régionales aujourd'hui? Est-ce qu'elles doivent gagner en importance? Et si oui, pourquoi? Quelle signification cela aurait-il? Quel risque éventuel? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Michel Feltin-Palas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Express, auteur de l'ouvrage « Sauvons les langues régionales », auteur d'une lettre d'information également qui est publiée chaque semaine et qui s'intitule « Sur le bout des langues ». Face à vous, Alain Bentolila, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de linguistique à l'Université Paris-Descartes. Votre dernier ouvrage « Controverse sur la langue française ». Et notre troisième invité, à vos côtés, Nicolas Quin, bonsoir.
Bonsoir.
Linguiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de la méthode Occitan. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Alain Bentolila, puisqu'on va évoquer la situation des langues régionales pour un petit peu poser ce débat. Est-ce qu'on sait combien il y a de langues régionales dans le monde aujourd'hui? Je m'attendais à ce
faudrait
silence.
Déjà... Hein. Enfin, la question, c'est de trouver une définition de la langue régionale, parce que,
alors,
dit comme ça...
Qu'est-ce qu'une langue régionale?
Qu'est-ce qu'une langue régionale? C'est une langue qui existe, une langue à part entière, à laquelle l'histoire n'a pas donné sa chance.
Ah, donc c'est une...
Si j'ose dire.
Donc il y a un statut entre les langues régionales et les langues officielles.
Ce sont des langues qui, la plupart du temps, ont été... tenu à l'écart des cercles officiels et qui se sont développés malgré un ostracisme évident qui les a maintenus à l'écart du juridique, à l'écart du scolaire, à l'écart de l'économique, à l'écart de beaucoup de choses. Et évidemment, une langue a cela de particulier... qu'elle ne donne que ce qu'on lui demande.
Mais ça, quand vous dites que l'histoire n'a pas donné sa chance aux langues régionales, et c'est pour ça qu'elles sont des langues régionales, ça veut dire qu'elles étaient appelées à jouer un autre rôle?
Elles auraient pu, bien sûr. Okay. Bien entendu, elles auraient pu. Mm-hmm. Mais l'histoire, les guerres, les conquêtes, les dominations ont fait que certaines langues ont eu moins de propositions. Ouais. On leur a accordé moins de perspectives de création lexicale, pas syntaxique, parce que la syntaxe est vraisemblablement ce qui est le moins touché par la réduction sociale des langues.
Mais les langues régionales ne peuvent pas se satisfaire d'être, entre guillemets, uniquement des langues régionales?
Pour moi...
Le débat est bien lancé, de toute façon,
je pense que les choses... sont ce qu'elles sont.
Ouais.
Et que certains combats sont des combats aujourd'hui un peu d'arrière-garde, parce que autant je suis vraiment engagé pour la vie culturelle forte et la défense forte des langues régionales, autant par exemple, je suis relativement opposé à l'utilisation de certaines langues régionales à l'école.
Alors,
et c'est vraisemblablement là que le clivage se fait entre
nous. On va sans doute l'évoquer.
Mais sur le reste, je crois qu'on peut...
Michel Feltin-Palas, plutôt que de vous demander combien il y a de langues régionales dans le monde, je vais te demander quel est le poids aujourd'hui des langues régionales dans le monde.
Je ne pourrais pas vous répondre davantage. Mais Alain Bentolila a bien résumé les choses. Les linguistes disent qu'il y a environ 6 000, 7 000 langues dans le monde.
Okay.
Toutes sont des langues. Linguistiquement, elles sont toutes égales, mais certaines sont devenues langues officielles d'un État, d'autres non. C'est ça la différence entre une langue dite régionale et une langue nationale. On pourrait parler plutôt que de langue régionale, de langue minorée, minorisée, autochtone, enfin, il y a d'autres noms possibles. Voilà, ce sont des langues qui n'ont pas de statut, et là on diverge effectivement avec Alain Bentolila. Il dit, je veux bien que les gens les parlent dans le domaine culturel, mais stop, Si les langues sont cantonnées dans le domaine culturel, la plupart d'entre elles finissent par mourir. On estime qu'une langue disparaît tous les 15 jours en moyenne dans le monde, et ça n'est pas un hasard. C'est que soit on prend des mesures en faveur de ces langues et elles peuvent subsister, soit on leur refuse ces mesures et elles dépérissent. Je prends un exemple qui permettra à tout le monde de comprendre. Si on prend la situation du français au Canada, le français est globalement une langue régionale au Canada, qui est un pays à majorité anglophone. Et si le français résiste vaille que vaille au Québec, notamment, c'est parce qu'il bénéficie de mesures très fortes en sa faveur, dans l'enseignement, dans les médias, dans les administrations. Sans ces mesures, je vous cite une parole du ministre québécois de la langue française. Il m'a dit, sans ces mesures qui ont été prises en faveur du français langue régionale au Canada, le français serait réduit à l'état folklorique et disparaîtrait dans quelques décennies. Donc on ne peut pas soutenir, de mon point de vue, des mesures en faveur du français au Canada et refuser ces mêmes mesures aux langues régionales de France. Soit on défend la diversité culturelle partout, soit on ne défend la diversité culturelle qu'en faveur du français. Mais là, ça n'est plus une défense de la diversité culturelle, c'est une forme de chauvinisme linguistique.
Mais est-ce que toutes les langues régionales ont l'ambition du français?
Quelle est l'ambition du français?
Dans le sens où est-ce que toutes les langues régionales veulent devenir des langues officielles?
Non, toutes les langues régionales, à ma connaissance,
c'est ça quand je disais, est-ce que...
Tous les groupes culturels souhaitent préserver leur langue et leur culture. C'est un réflexe naturel. Et pour ça, ils ont besoin d'un minimum de mesures, sans devenir langue internationale. Le français a des qualités linguistiques internationales que n'aura jamais, je sais pas, le Poitevin Saintongeais ou l'Alsacien. Ouais. En revanche, restons sur l'exemple de l'Alsacien. Évidemment, les locuteurs de l'Alsacien souhaitent que l'Alsacien soit préservé. Et pour ça, ils ont besoin de mesures.
Je vous en prie. Vous pourriez juste préciser pour moi. Quand on dit, par exemple, qu'il faut des mesures pour que ces langues régionales vivent, voire s'épanouissent, est-ce que votre idée, c'est qu'elles deviennent langues d'enseignement? Oui, c'est ça votre idée?
Oui, en gros, il y a deux mesures à prendre. Il faut former des locuteurs, donc il faut passer par l'enseignement et les crèches bilingues. Par exemple, les enfants sont des éponges, donc ils peuvent apprendre n'importe quelle langue, donc il faut effectivement un enseignement bilingue et des crèches bilingues, là vous formez des locuteurs, mais si ces locuteurs n'ont pas la possibilité d'utiliser ensuite ces langues dans l'emploi, dans l'administration, dans les médias, ils ne vont pas les utiliser, ils vont même ne pas les apprendre en disant ça ne sert à rien. Donc il faut que ces langues soient utiles.
Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut commencer par conquérir des territoires où les langues dites régionales vont pouvoir... Le catalan par exemple. Le catalan, pourquoi est-ce que le catalan existe? Parce que la sueur de leur front et en se battant, les Catalans sont arrivés à faire de cette langue une langue des tribunaux, une langue des journaux. Et à ce moment-là, évidemment, l'école suit. Mais l'école ne peut pas précéder. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous voyez ce que je défends?
Est-ce que le poids d'une langue correspond au poids de sa culture? Parce que vous citez, je vais donner après la parole à Nicolas Quint, qu'on n'a pas encore entendu, Alain Bantolila, vous citez l'exemple du catalan.
Ouais.
Effectivement, la culture catalane est très forte.
La culture, c'est quelque chose de considérable. Le fait que le catalan soit utilisé dans les tribunaux, le fait qu'il y ait énormément de journaux, beaucoup de journaux, presque 50% de journaux en catalan, tout cela fait que ça légitime le fait que cette langue rentre dans l'école et devient une langue d'enseignement. On apprend en catalan. Mais comme vous le disiez justement, si à l'extérieur, il n'y a pas justement ces territoires que ces langues peuvent occuper, à quoi bon les apprendre? Pas les apprendre d'ailleurs, les utiliser comme langue d'enseignement à l'école. Parce que les apprendre, c'est encore une autre affaire.
Nicolas Quint, on peut prendre l'exemple de l'occitan. Alors, vous connaissez bien, vous avez écrit la méthode occitan. Qui parle l'occitan? Combien de personnes parlent l'occitan? Est-ce que de moins en moins de personnes parlent l'occitan? Je repense à cette phrase qu'a dit Michel Feltin-Palas, qui est forte. Une langue disparaît tous les 15 jours dans le monde.
Alors, l'occitan est bien parti pour disparaître assez rapidement de l'usage parlé, comme la plupart des langues régionales en France, et en particulier en France métropolitaine. Dans le cas de l'occitan, alors je pense qu'il faut, si on revient un petit peu en arrière, vers 1900, on estime qu'il y avait au moins 10 millions de locuteurs, ce qui est conséquent, c'est plus qu'énormément de langues officielles actuellement en Europe. Vers l'an 2000, il y en avait maximum 1 million, et aujourd'hui, on est en 2025, il y en a beaucoup moins. Il y en a entre 200 et 500 000, dont on peut considérer que c'est la langue maternelle. Donc sur une population de l'ère occitane qui correspond à peu près à 16 ou 17 millions de personnes, il y a finalement une très petite minorité des gens qui parlent l'occitan actuellement comme première langue. Et ce résultat est directement la conséquence d'une scolarisation monolingue en français et d'une exclusion de l'occitan de la vie publique. Mmh. Alors avant, vous notez qu'avant, il est exclu aussi, puisque... il n'était pas enseigné à l'école au XIXe siècle, où pourtant il était très parlé, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'écoles tout court, même dans les zones francophones. Donc en fait, quand on a développé le système scolaire pour les citoyens, ce qui me paraît tout à fait positif, hein, je suis pour la scolarisation, le choix a été fait de retenir une langue, et par une mécanique alors qui est absolument universelle dans le monde, la langue de l'école est devenue la langue des gens en quelques générations. Donc c'est le résultat, par exemple, du recul d'une langue régionale, c'est toujours une question de pouvoir et de cercle réservé à la langue officielle et aux langues régionales. Alors d'ailleurs, il y a un linguiste connu, Weinreich, qui disait que, mais il a entièrement raison, c'est exactement ça, une langue, c'est un dialecte qui a une armée et une marine. C'est absolument ça. Ouais. Hein. Donc en fait, les langues régionales, ce n'est pas des espèces miraculeuses différentes des langues officielles. C'est comme le disait M. Bentolila, les langues officielles, c'est des langues qui ont eu accès au pouvoir. Et les langues régionales, c'est des langues qui n'ont pas accès au pouvoir et qui ont moins accès au pouvoir. On parle du catalan avec raison, c'est la langue régionale de l'Europe, qui a réussi. Elle a recul en Catalogne, en vrai, dans les enquêtes.
Globalement, les langues régionales, j'ai l'impression, sont toutes en recul dans le monde. Vous citiez l'Occitan. Aujourd'hui, pour se rendre compte, par exemple, en Europe, il y a une soixantaine de langues régionales. Et il y a moins de 10% de la population européenne qui parle une langue régionale.
Toutes les langues régionales ne sont pas en recul.
Presque toutes.
Est-ce qu'on peut parler du continent africain ?
C'est pareil,
Nicolas Quint.
C'est évidemment pareil. Moi, je travaille sur le Koalib, par exemple. C'est une langue minoritaire au Soudan. Elle n'est pas enseignée à l'école et elle n'est pas utilisée dans les médias. Et depuis que le système scolaire et administratif se développe en pays koalib, il y a de moins en moins de gens qui parlent koalib. Il y a encore des enfants qui parlent koalib. Alors, il y a des enfants qui parlent occitan, mais c'est vraiment que dans les écoles bilingues. Il y a des enfants qui parlent koalib dans des villages, ça existe encore. Mais il y a, à l'évidence, beaucoup plus de gens âgés, beaucoup moins de jeunes qui parlent koalib. Toujours pour la même raison, c'est parce que quand on est jeune, on veut aller de l'avant. Et si on n'a pas d'offre d'emploi, si on n'a pas de cours dans sa langue, on change de langue. Donc en fait, ce n'est pas un miracle que les langues régionales disparaissent. C'est simplement le fait d'une relation de pouvoir. Et alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, parce que pourquoi il y avait tant de langues avant et pourquoi il y en a de moins en moins, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans des États qui sont tous construits sur le même modèle, qui dispose d'un système scolaire, d'un système administratif et de médias. Et alors ça, en fait, c'est du moment que ça, c'est contrôlé par une communauté linguistique, les autres sont voués à disparaître.
Alain Mantolila, je vois que vous voulez prendre la parole, Michel Feltin-Palas, je voulais juste poser une question, parce que quand vous avez toutes les langues régionales ne sont pas en recul, est-ce qu'il y a des régions dans le monde où les langues régionales sont plus importantes ?
Alors, je vais vous citer un contre-exemple que je trouve intéressant, c'est le gallois. Parce que le gallois, c'est une langue parlée très proche de nous, dans un pays, le Royaume-Uni, donc de développement économique comparable, qui fait face à une langue encore plus puissante que le français en France, qui est l'anglais. Le gallois gagne des locuteurs. Pourquoi ? Parce que depuis quelques décennies, ils ont mis en place des mesures linguistiques. Je vous cite quelques exemples. Le gallois est enseigné dans toutes les écoles et occupe entre 10 et 80% des cours dans toutes les écoles du Pays de Galles. Le gallois est utilisable...
Et vous dites bien enseigné.
Oui. Il est utilisable en justice, il dispose de l'équivalent d'un France 3 qui est entièrement en gallois depuis 50 ans, financé sur fonds publics. Et le gallois gagne des locuteurs, c'est une langue celtique, et quand vous prenez en France le breton lui perd des locuteurs, langue celtique face au français, mais le breton n'est pas enseigné dans toutes les écoles. D'accord. Entre 10 et 80%, France 3 Bretagne n'est pas en breton depuis 40 ans, etc. etc. C'est-à-dire que c'est la poule et l'œuf, c'est en ça que je suis en désaccord avec M. Bentolila. Si on ne prend pas des mesures, si on attend qu'il y ait de plus en plus de locuteurs pour mettre des mesures, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait des mesures, et là on gagne des locuteurs, et c'est possible par exemple à l'exemple du gallois.
Alain Bentolila, c'est une équation. Moins d'enseignement égale un recul du nombre de personnes qui parlent les langues régionales.
Mais l'école n'est pas faite pour promouvoir les langues régionales. L'école est faite pour apprendre à lire et à écrire aux élèves, dans la langue qui sera la plus utile socialement, culturellement. C'est ça l'école.
Ça dessert la langue, l'apprentissage de la langue nationale.
Non, ça ne dessert rien. Moi,
mais c'est le contraire. Le bilinguisme,
c'est la question
précoce,
que je pose à Alain Bentolila.
Pardonne-moi de le dire. Ouais. Le bilinguisme précoce a un effet positif sur le niveau en français des élèves. Les enfants qui parlent deux langues à l'école sont meilleurs en français, ils sont meilleurs en maths, ils sont meilleurs en histoire. Et ce que je vous dis là, c'est pas un tract de région et peuple solidaire.
Les conclusions des
neurolinguistes.
Les enfants bilingues
sont meilleurs à l'école parce que le cerveau est habitué à la complexité.
Les enfants qui vont dans les écoles d'Iwan, par exemple, en Bretagne, sont des enfants qui appartiennent à des milieux favorisés.
Mais à milieu socio-économique égal.
Qu'ils parlent mieux le français, évidemment qu'ils parlent mieux le français, comme tous les enfants des milieux favorisés ont un avantage considérable. Mais je voudrais dire quelque chose sur quoi nous allons être d'accord.
Ça arrive.
En Afrique, je défends mordicus l'utilisation des langues africaines à l'école. Comme langue d'enseignement. Pourquoi ? Parce que un enfant ne peut pas apprendre à lire et écrire dans une langue qu'il ne parle pas. Je veux dire, cette évidence-là, beaucoup de gens l'oublient. Un enfant ne peut pas apprendre à lire et écrire dans une langue qu'il ne parle pas. Imaginez que vos enfants, vous les envoyez dans une école, ils apprennent à lire et écrire en chinois, en espagnol. Voilà.
Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bentolila,
Nicolas Quint, et après on passe à la seconde partie.
Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bentolila, c'est pas vrai, parce que dans ma propre famille, énormément de gens ne parlaient pas le français quand ils sont arrivés à l'école.
Bien sûr.
Et on aura enseigné uniquement en français. Au début, ils ne comprenaient pas et ils ont été alphabétisés en français. Donc, on ne leur a pas enseigné dans leur langue. Et ça marche. Donc, en fait, on peut très bien remplacer la langue des gens. C'est tout à fait faisable. Ça a été fait dans de nombreux contextes.
Avec
et c'est ce qui se passe en Afrique,
difficulté
d'ailleurs.
Et une casse terrible pour les enfants fragiles.
Je suis d'accord.
Mais c'est ça la question.
Attendez, jingle. On en vient à la deuxième partie, ça continue.
Moi, les élèves qui m'intéressent,
est-ce qu'il faut favoriser les langues régionales? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Mes trois invités, Michel Feltin-Palas, qui est journaliste à l'Express, auteur du livre « Sauvons les langues régionales », auteur d'une lettre d'information qui sort chaque semaine, qui s'intitule « Sur le bout des langues ». Alain Bentolila, qui est professeur de linguistique à l'Université Paris-Descartes, auteur de l'ouvrage « Controverse sur la langue française ». Et Nicolas Quint, linguiste, directeur de recherche au CNRS et auteur de la méthode Occitan. On va pas faire un débat uniquement sur faut-il plus ou moins enseigner les langues régionales. On essaie de savoir si les langues régionales doivent être plus importantes qu'elles ne sont aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je vais vous poser la question qui est au cœur de notre débat. Est-ce qu'il faut accorder le statut de langue officielle de l'Union européenne aux Basques, aux Galiciens et aux Catalans, comme le souhaite l'Espagne? Michel Feltin-Palas.
Alors, de mon point de vue, oui, ça ne vous étonnera pas parce que ça fait partie des mesures... Il y a plusieurs raisons qui peuvent être invoquées. Premièrement, c'est qu'effectivement, le catalan, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de locuteurs du catalan, c'est-à-dire que c'est plus que d'autres langues officielles comme le danois ou le letton, par exemple. C'est une langue de grande culture, évidemment. Et puis, il faut voir qu'on vient d'un contexte particulier, puisque le catalan a été interdit par Franco, et que le fait qu'il y ait une diversité de langues en Europe, c'est conforme à la devise de l'Union européenne qui est unie dans la diversité, donc c'est plus conforme d'accorder des statuts.
Multilinguiste.
Hein, Umberto Eco disait...
Il y a 24
langues officielles déjà. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Ouais. Hein, et je trouve que ça résume merveilleusement ce que doit être l'Europe. Imaginons le contre-modèle absolu, c'est pas ce vers quoi on va. Disons, on parle uniquement anglais, tous anglais partout en Europe, parce que c'est plus pratique, c'est plus utile, etc. Ce serait un appauvrissement culturel considérable. C'est vrai aussi du catalan, du basque et de toutes les autres langues.
Nicolas Quint, vous êtes d'accord? Pour la question, faut-il accorder le statut de langue officielle de l'UE aux Basques, aux Catalans?
Je suis favorable aux langues régionales. Alors après, le problème, c'est pourquoi celle-là et pas d'autres, en fait.
C'est la question qui en découle.
C'est évidemment compliqué. Il y a aussi une autre chose, c'est que c'est vrai que c'est bien de promouvoir le multilinguisme. Le revers de la médaille, c'est qu'en pratique, la langue de l'Europe, c'est l'anglais. Et si on multiplie... Mais alors, attention, je n'ai pas dit que j'étais contre, mais si on multiplie le nombre de langues, en vrai, ce qui va se passer, c'est que ça va renforcer l'anglais parce qu'il y aura besoin d'une langue commune. Ah. Et ça, mais je n'ai pas de solution. Mmh. Alors justement, là, je rebondis aussi sur un argument que développait M. Bentolila, mais je n'ai rien contre ou pour en soi. Hein, j'essaie d'être... c'est d'être linguiste avant tout. Mais quand on dit justement qu'il faut enseigner aux enfants la langue la plus utile, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, il n'y en a qu'une utile en ce moment, c'est l'anglais. Pourquoi enseigner le français ? Au niveau européen, l'anglais, le français est une langue régionale.
Il y a beaucoup de langues qui montent en puissance quand même. Je veux dire, l'espagnol, le chinois, l'arabe.
Alors, quand vous faites de la recherche, je peux vous assurer... Alors, le chinois peut-être dans l'avenir. Quand vous faites de la recherche, je peux vous assurer que l'anglais est beaucoup plus utile que toutes les autres. C'est un fait. Hein. Alors, après, moi, j'ai pas... Mais si on raisonne en termes d'utilité, et j'irai un petit peu plus loin, si on raisonne aussi en termes techniques... On peut très bien fonctionner actuellement avec une seule langue. Je suis pas pour. Hein. J'ai fait toute ma carrière sur l'idée contraire. Oui, puis surtout, j'ai décrit des langues minoritaires pendant toute ma vie, donc j'ai pas vraiment fait ça. Ouais. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, une seule suffit. Alors non, justement,
une seule ne suffit pas.
Attendez, Elamane Tolila, moi, je voudrais avoir votre avis sur cette décision de l'Union européenne. Je voudrais juste savoir si pourquoi c'est un problème que le catalan. Le galicien et le... Bah, si c'est un problème, puisque l'Union européenne ne l'a pas validé. Ça a été une décision qui a été reportée.
Non, moi, je
vous, vous vraiment, estimez que...
Pourquoi pas je pense que ça ne changera pas véritablement les choses.
Mais pourquoi ces trois langues et pas d'autres?
Pourquoi ces trois langues et pas d'autres? Parce que ils ont, on a fait un lobbying plutôt fort sur ces langues-là et que les autres n'ont pas eu de quoi se payer des lobbyeurs, si j'ose dire, suffisamment.
Parce que le poids n'est pas le même aussi.
Hein?
Non. Parce que le poids n'est pas le même. On a évoqué le catalan.
Je pense qu'il
y a un enjeu différent sur d'autres langues régionales.
Il y a aussi une dichotomie qu'on fait depuis le début entre langue régionale et langue nationale, enfin, ou langue officielle, qui est limitée. Parce que justement, le catalan, le basque et le galicien sont reconnus par l'État espagnol, officiellement. Hein, ils sont enseignés par en fait, le système scolaire espagnol. Et donc, c'est évidemment que c'est des langues régionales, parce que ce n'est pas des langues parlées à l'échelle de l'État entier, mais c'est des langues qui ont un statut national reconnu par l'État extrêmement fort. Donc, on ne peut pas les comparer avec des langues minoritaires sans statut. Elles sont, si vous voulez, je pense, intermédiaires entre une langue officielle nationale...
C'est des candidates.
Voilà. Et donc, ça fait que du point de vue du statut, c'est différent. Mmh. Alors, balancer tout dans une catégorie langue régionale, je pense que c'est un peu limitant du point de vue du concept.
Alain Bentolila, vous avez dit que vous n'étiez pas pour l'enseignement des langues régionales à l'école. Vous n'êtes pas pour favoriser les langues régionales, pour répondre à la question de notre débat.
Pas du tout, je suis pour favoriser les langues régionales.
Alors comment on les favorise si l'enseignement...
On peut apprendre à parler breton, apprendre à parler occitan, etc. Ce contre quoi je suis, c'est l'utilisation
des langues... Alors comment on apprend si ce n'est pas par l'enseignement?
Non, pardon. Apprendre une langue et utiliser une langue pour apprendre sont deux choses différentes. Je suis contre l'idée... que ces langues soient des langues d'apprentissage pour les mathématiques, etc. Là, je suis vraiment contre cette idée, si vous voulez, qu'on prend une langue qui a été pendant des siècles complètement minorée, on l'apprend, on lui dit maintenant, c'est toi qu'on va utiliser pour les mathématiques, l'histoire, non.
Mais comment on apprend une langue régionale autrement que par l'enseignement?
Par contre, apprendre la langue régionale, apprendre à parler la langue régionale, à l'utiliser, à la maîtriser, évidemment qu'il
mais
faut
comment
le faire. Par des cours de... Je sais pas, on peut faire des cours de breton, des cours d'occitan.
Pas à l'école.
Vous avez fait une méthode...
Mais ça ne suffit évidemment pas.
Votre méthode sert à apprendre l'occitan.
Michel Feltin-Palas, est-ce qu'il faut favoriser...
Elle est conçue pour ça, oui.
Il y a un débat dans le débat. Est-ce qu'il faut favoriser langue régionale?
Bien sûr, et je le dis avec beaucoup de respect, parce que moi je ne suis que journaliste et pas linguiste, mais je rappelle que pendant des siècles, la langue de l'enseignement en France était le latin. Et qu'il y a eu à un moment des gens qui ont dit mais non, on peut aussi utiliser le français. Et qu'il y a des gens qui se sont élevés contre cette idée en disant mais non, le français c'est une langue du vulgaire, une langue de communication quotidienne, seul le latin peut être enseigné. On y arrive très bien avec le français, on peut y arriver avec toutes les langues. Toutes les langues sont capables de devenir des langues d'enseignement.
On est là aussi au bord du théologique et du séculier. Donc, on voit bien, si vous voulez, que ce latin était la langue de Dieu, de même que l'arabe classique est la langue de Dieu. Langue du Coran, langue de Dieu, langue inattaquable, langue qui n'est pas faite pour être comprise.
Là, on ne parle pas du français.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et le temps tourne. Et je voudrais avoir l'avis de Nicolas Quint sur le sujet.
à quel point est-ce qu'il faut, selon vous, favoriser les langues régionales ? Vous avez beaucoup évoqué le recul des langues régionales. Oui.
Ben, en fait, je pense que voilà, la vraie question...
Est-ce que la vocation des langues régionales, c'est encore une fois, c'est d'être davantage favorisé jusqu'où ?
En fait, je ne sais pas si elles ont une vocation, mais simplement, je pense que le débat, c'est celui-là. C'est qu'en fait, toute langue, dans un État moderne, et le monde maintenant est couvert d'États modernes, avec des systèmes scolaires, des médias et une administration, dans un État moderne, toute langue qui est mise hors système est condamnée. Donc en fait, le choix... moi, évidemment, j'ai travaillé essentiellement sur des langues minoritaires dans ma vie, aussi bien en France qu'en Afrique. Je suis plutôt favorable aux langues titre personnel, je suis plutôt favorable aux langues régionales. On peut être contre, mais ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas favorable à leur enseignement ou à leur utilisation dans l'administration, on est contre, parce qu'elles sont forcément condamnées. Une langue, dans un État contemporain, une langue ne peut survivre que si elle est assumée par l'État. Donc le vrai débat, c'est celui-là. Soit on choisit de les soutenir, soit on choisit de les détruire. Mais on ne peut pas avoir de position intermédiaire, parce qu'en fait, ça ne marche pas.
Et vous dites bien qu'il faut... qu'elle soit enseignée. Ne dites pas qu'il faut qu'elle devienne langue d'enseignement.
Alors, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis.
On a disserté sur le sujet, mais je me rends compte que le débat se termine dans deux minutes et vous ne m'avez pas expliqué finalement ce qu'apportent les langues régionales. Je ne suis pas sûr que l'auditeur ait compris ce qu'apportent les langues régionales.
Vous avez raison. Je pense parallèlement.
Michel Feltin-Palas.
Imaginons que demain on dise en Europe, il y a trop de langues, c'est compliqué. Maintenant, c'est tout en anglais.
Ouais.
Et qu'on dise aux Français, aux Allemands, aux Italiens, mais qu'on dise aux Français, arrêtez de parler. On ne parle plus français à l'école, tout est en anglais. On n'utilise plus le français dans les administrations, tout est en anglais. Toutes les entreprises fonctionnent en anglais.
On sort les fourches.
Attendez, mais bien sûr on sortira les fourches. Pourquoi ? Pas parce que les Français ont tous fait des études de linguistique, mais parce que chacun le sent. Une langue, c'est beaucoup plus qu'un moyen de communication, qu'un moyen de dire « mon train va arriver en retard ». Une langue, ça nous engage intimement. Les psychiatres qui ont travaillé sur ces questions nous disent que c'est un élément aussi essentiel pour un individu que le fait d'être un homme ou une femme, que la forme de son visage, que son patronyme. Et attaquer la langue de quelqu'un, c'est attaquer un élément essentiel de son identité.
Mais par exemple, je parle français, je ne parle pas de langue régionale.
Oui, c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'apporte une langue régionale ?
Mais pour quelqu'un qui parle une langue régionale, c'est aussi important pour vous le français.
Sa mère.
Et souvenez-vous, on n'en a pas parlé,
maman.
Et on a eu tort. Souvenez-vous que dans les territoires d'outre-mer, les langues dites régionales sont des langues sociales, parlées par 80% de la population. Donc, devons-nous continuer en France à massacrer les langues comme on l'a fait en métropole, outre-mer ? Il n'y a pas de sous-langue, il n'y a pas de sous-homme. Et faire le contraire, c'est attaquer les individus.
Les langues régionales qui reculent, c'est la culture qui recule ?
Bien sûr, ce sont des créations culturelles de l'humanité.
Ah, c'est quand même...
Nicolas Quint, le mot de la fin.
C'est la pluralité. Hein, parler plusieurs langues. Alors d'abord, il faudrait quand même signaler qu'un individu peut parler plusieurs langues. C'est mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens dans le monde. Et on peut parler plusieurs langues, assumer plusieurs identités... sans être un traître à sa nation, à sa communauté européenne, etc. Enfin, il y a moyen d'avoir plusieurs identités linguistiques et qu'elles coexistent de façon harmonieuse.
En tout cas, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut les favoriser globalement et là, vous n'êtes pas toujours d'accord sur comment les favoriser, ces langues régionales. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à ces questions dans le débat du jour qui est à présent terminé. Michel Feltin-Palas, Alain Bentolila et Nicolas Quint. Et merci à Florence Pons à la préparation de ce débat et Hélène Avril à sa réalisation. Merci à la documentation de Radio France Internationale.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir sur Radio France Internationale. Et puis, 30 minutes plus tard, ce sera l'heure d'Afrique Soir, déjà la première édition de ce mardi. Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Romain.
On jette un coup d'œil au programme de l'édition ce soir.
Oui, nous parlerons de la signature d'importants accords migratoires entre le Sénégal et la Mauritanie. L'un sur la lutte contre l'immigration clandestine, l'autre sur les conditions de séjour. Le secrétaire général de l'ONU lui réclame une enquête urgente après l'attaque au Soudan hier d'un convoi humanitaire qui a été bombardé près de la ville d'El Fachir, c'est dans la province du Darfour Nord. Bilan 5 morts, un convoi qui devait livrer de l'aide à cette ville qui est assiégée. Et puis la République démocratique du Congo avec une enveloppe de la Banque mondiale qui relance Inga 3. Alors qu'est-ce que c'est Inga 3 ? C'est un projet colossal, il sommeillait depuis les années 90. Il doit voir la construction d'un troisième ouvrage hydroélectrique sur le fleuve Congo. Les enjeux sont très importants pour les populations, financièrement également pour ce pays. Et ce sera le dossier d'Afrique Soir.
Eh bien merci Sylvie Berruet, on vous retrouve dans 30 minutes. D'ici là, le grand journal du soir et le dossier qui sera ce soir consacré à la montée du racisme qui est observée en France. Ne bougez surtout pas sur Radio France Internationale.